Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Les grandes gueules du sport avec Pascal Duprat, Christophe Cessieux, Cédric Aymance et Julien Benneteau. Tiens, il y a l'Open d'Australie en direct, on va y retourner dans quelques instants. Il paraît que c'est le grand chelem le plus cool du monde, Bennett, c'est vrai ça?
C'est cool pour plusieurs raisons. C'est qu'il était à l'autre bout du monde pour les Européens. À cette époque de l'année, c'est l'été, là-bas il fait 25-30 degrés. Ouais. Et puis il y a une ambiance qui est un peu particulière, c'est les grandes vacances pour eux.
T'allais à la plage entre eux?
C'est les grandes vacances, non.
Ouais. Non, sérieusement,
j'allais pas à la plage, non, parce qu'à Melbourne, c'est à St Kilda, c'est un peu plus loin. Ouais. Mais non, les jours de repos, oui, tu es autour des hôtels. Eric, tout à l'heure, parlait des parcs botaniques et que Joko fait les câlins aux arbres. Mm. Mais t'as plein de parcs pour te balader, faire autre chose.
C'est bien, on voyage avec vous. Tiens, on a parlé du Dakar il y a quelques instants. Je voudrais vous parler de ce message sur WhatsApp au 06 12 424 424 de Julien qui nous écoute, un fidèle auditeur. À propos du Dakar, il nous dit « J'aime le sport, j'aime tout le sport. Mais malheureusement, je viens d'apprendre pendant votre émission que le Dakar vient de s'achever hier. Pour tout vous dire, par la même occasion, je viens aussi d'apprendre qu'il avait démarré. Et comme je n'en ai pas entendu parler, j'imagine que l'Hub ne l'a toujours pas gagné. »
C'est terrible. Petite pièce
gratuite. Ouais, 10e participation, effectivement, Sébastien Loeb n'est toujours pas aller chercher sa couronne sur le Dakar. On en avait parlé ici avant. Dans un instant, les GG sur le buzzer. C'est la finale de la CAN, hein, exceptionnel dispositif sur RMC à Rabat. On sera dès 19h30 là-bas. Le coup d'envoi à 20h pour Maroc-Sénégal. Le Maroc joue sa finale de la CAN à domicile. Est-ce que c'est imperdable une finale à domicile? Et puis en fin d'émission, participez aux jeux du sport avec vos GG aujourd'hui et remportez un ballon de basket authentifié et signé par Magic Johnson grâce à notre partenaire authenticsignature.com. Pour gagner votre ballon dédicacé par Magic Johnson, appelez le 32-16 touche 4, envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Bah oui, on connaît des gens ici, hein, on peut faire signer par Magic Johnson, par Tipeee. Les grandes gueules du sport, on est en place, hein. Tony Parker.
Ah, Tipeee.
Tipeee, ouais, excuse-moi, c'est mon accent texan. Je rappelle, vous pouvez retrouver les deux premières heures des grandes gueules du sport en podcast sur toutes les plateformes. Allez, tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG cette semaine, ce qui nous a interpellé, c'est l'équipe de France de handball qui dispute l'Euro en Scandinavie sans aucun expert. Cette génération au double champion olympique et quadruple champion du monde menée par les, vous vous souvenez, les Karabatic, Aubrière, Narcisse, je suis sûr que vous les avez pratiquement tous. Nicolas Paolorsi est en Norvège au plus près des Bleus pour RMC. Salut Nico!
Salut les GG, salut à tous.
Alors avant d'en parler dans le vestiaire, justement, on voulait parler de ça avec toi. Les Bleus sans experts, c'est un petit événement dans la planète hand française quand même, hein.
Clairement, bah c'est la génération qui a écrasé le handball mondial, qui a sûrement fait d'ailleurs qu'on a un peu banalisé les victoires dans ce sport, tellement ils ont gagné de trophées. Le dernier à avoir pris sa retraite internationale l'an dernier, c'est Luka Karabatic, le frère de Nicolas, et ça change beaucoup de choses pour le sélectionneur Guillaume Gilles.
C'est une équipe qui a vécu beaucoup de mutations. Quand on regarde, encore une fois, depuis deux ans, ce qui s'est passé au sein de cette équipe, c'est le départ de beaucoup d'illustres anciens, de légendes de notre sport.
Aujourd'hui, la dynamique, effectivement, elle est plus répartie. Donc oui, il y a de la place pour tout le monde.
Les joueurs qui ont arrêté en équipe de France sur les deux dernières années, Luka Karabatic, 172 sélections, Valentin Porte, 195, Vincent Gérard, 157 et le meilleur joueur de tous les temps, Nicolas Karabatic, 365 sélections. Alors, il n'avait plus un rôle majeur forcément sur le terrain, mais dans le vestiaire, c'était les patrons, Yanis Len, l'ailier droit de l'équipe de France.
T'as plus vraiment de numéro 1, numéro 2. Quand on est en rond à la fin de l'entraînement et que tu regardes les joueurs, tu dis... L'équipe, elle est solide, quoi, mais surtout par rapport à ça. Il y a moins de déséquilibre entre la première et la deuxième rotation, j'ai envie de dire.
Moins de déséquilibre et un mot d'ordre pour cette compétition, c'est Aymeric Zetfel, un des bisous des Bleus, 24 ans, qui nous donne la devise des Français pour cette Euro.
Ce qu'on essaie de faire passer, la star, c'est l'équipe. Après, bien sûr, on a des individualités très fortes. Elles doivent continuer à être fortes, à porter cette équipe, mais on est tous avec ces joueurs à faire en sorte d'être un noyau très très dur.
La star, c'est l'équipe. Alors attention, il y a beaucoup de joueurs quand même qui sont là depuis quasiment 10 ans maintenant. Fabregas, le capitaine, Dikamem, c'est des noms qu'on connaît. Mais ils n'avaient pas le même poids dans le groupe. Et je rappelle quand même que cette équipe de France, même sans les experts, a individuellement ce qui se fait de mieux au monde avec des joueurs qui évoluent tous dans les plus grands clubs européens.
Ben oui, merci Nico. Nico Paolorsi à l'Euro de handball en Scandinavie. Je rappelle que la France a gagné hier 46-26. Bon, sans experts, on s'en sort pas trop mal aussi. Deux victoires en deux matchs. Du coup, la prochaine rencontre, c'est face à la Norvège, lundi à 20h45. Bah les GG, à travers vos expérience, j'aimerais qu'on parle de ça. Comment on passe de témoin avec les plus jeunes, le basculement d'une génération, ça se passe comment dans le sport de haut niveau? On parle en plus là, d'une thématique qui vous concerne tous, hein, et qui concerne aussi la vie de tous les jours, hein, dans l'entreprise, notamment. Comment on passe le témoin finalement? Cédric, tiens, on va commencer par toi.
Tu la vis de deux façons. La première, quand tu es jeune et que tu arrives et que les anciens, eux, te passent le relais avec leur façon, avec ce qu'ils ont vécu. Et après, il y a ta fin de carrière, ce que toi, tu as envie de faire et ce que tu as envie de passer. Moi, pour exemple, quand je suis arrivé à Brive, des joueurs comme Sébastien Viars, Alain Penaud ont été très protecteurs sur mon arrivée dans les vestiaires, même si c'était un vestiaire avec de grosses personnalités, j'ai été plutôt protégé. Après, quand je suis arrivé, parce que j'étais encore un peu jeune, quand je suis arrivé au stade, ça, c'est pareil, il y a des gros joueurs qui m'ont protégé. Et après, à l'inverse, quand moi, j'ai voulu passer le relais sur ma fin de carrière à Bayonne, ça a été plus compliqué parce que tu joues moins, parce que les coachs te font pas confiance, ils veulent pas que t'endosses ce rôle-là, et tu le vis un peu moins bien. Quand t'as l'envie de partager, l'envie de transmettre, ça peut te laisser un petit goût amer dans la bouche.
Mais toi, par exemple, alors là, tu parles de Bayonne de la fin, mais à Toulouse, il y avait un garçon que tu
Max Médard.
Beaucoup.
Max Médard, je sais, il n'aime pas que je le dise, mais je dis souvent c'est mon petit bébé,
bébé.
Oui. Parce que Max était doué, il était au-dessus, et puis on le savait. Qu'il allait arriver, qu'il allait marcher
mais
sur l'eau.
Mais c'est quelqu'un qui pouvait prendre ta place.
Oui. Mais j'ai pas eu ce rapport. J'ai jamais eu ce rapport à dire le jeune va me mettre dehors. Je suis l'ancien. Allez, tu restes derrière, tu restes dans les rétros, tu regardes comment je fais. Non. Moi, je suis sur la performance. S'il est bon, il y a pas d'âge. J'en ai souffert étant jeune de pas jouer à cause de d'entraîneurs qui prenaient pas le risque de faire jouer un jeune. S'il est bon, il joue. Sauf que Max, c'était plus des discussions sur le haut niveau psychologiquement parce que physiquement, il allait très vite, il était au-dessus. C'est juste sur le passage de l'apprentissage du mental, de la motivation, du travail.
Tu dis quoi? J'ai envie d'accompagner ce garçon. Ouais. Peut-être pas comme on l'a fait avec moi quand j'ai commencé.
Ouais, exactement. Parce que certains ont été pas très cool. Pas cool du tout sur c'est-à-dire que. J'ai pas envie de dire des petits coups en douce.
Non, mais le sport de haut niveau, c'est la jungle.
Je pense que le vestiaire est une jungle. Et que quand tu es dans ce vestiaire-là, si t'es pas prêt à mordre les autres, dans les règles, t'y arriveras pas. Et par moments, c'était un peu moyenasse, voilà. Donc là, j'avais pas envie qu'il souffre de ça. Et j'avais envie de l'encadrer. Et puis bon, c'est un vrai bon mec. Donc t'avais envie de l'aider. Quand t'es dans un vestiaire où les anciens font tout pour garder leur place, même s'ils ne sont pas au niveau, mais usent de leur influence auprès des coachs, ça devient très moyen.
Pascal, la transmission, le passage de témoin, évidemment, c'est un truc qui fait partie de tous les environnements.
Oui, je vais passer comme Cédric à la partie joueur. Autre époque, autre mœurs. Moi, j'ai commencé chez les professionnels au FC Sochaux, c'était dans les années 80. Or, croyez-moi, un jeune qui arrivait dans l'effectif professionnel dans les années 80, il y avait comme une forme de bizutage. C'est-à-dire que faut pas croire que t'étais accueilli aussi bien que on les accueille aujourd'hui. À savoir,
Pascal, mais une anecdote, quand j'arrive à Agen, je me change pendant plus d'un mois dans le vestiaire, sauf que mes affaires finissent sous la douche parce que j'ai pas de place de vestiaire, j'ai pas le droit de m'asseoir et que les anciens prennent leur douche et moi j'ai mes affaires trempées, je sors plus de chaque vestiaire. Voilà. Tu vois.
Par exemple, nous il y avait un vestiaire pour les pros confirmés puis un vestiaire pour les néo-pros et dans le vestiaire pour les néo-pros il y avait rien que de quoi de se changer, même pas les douches. Et quand tu voulais aller sur la table de massage, par exemple avant l'échauffement. Avant les matchs, c'était tous les anciens qui passaient en premier et quand c'était ton tour d'aller sur la table de massage, c'était le moment d'aller s'échauffer. Donc tu te faisais jamais masser. C'était un peu cet état d'esprit-là. C'est les cantines avec les maillots, c'est les jeunes qui les portent quand tu fais les trajets du bus à l'aéroport et du bus à l'hôtel.
Mais ça, Pascal, c'est cool. Quand ça devient physique, sans rien trop dévoiler, tu sais que dans un vestiaire, ça peut être horrible, l'emprise
oui, le bizutage un peu plus, ouais. C'était mieux. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui vous voulez, les mœurs sont changées, parce qu'il y a toujours un va-et-vient. Ce qui fait aujourd'hui la force d'un club de football, un club qui est structuré, c'est qu'il il a toujours, un turnover, à savoir des jeunes joueurs qui sont dessous et qui sont là pour amener de la valeur ajoutée à l'effectif professionnel, qui pendant la même saison viennent s'entraîner d'abord de temps à autre épisodiquement avec les pros, puis ensuite un peu plus pour confirmer le fait de s'entraîner toujours avec les pros. Donc le club qui tient la route, c'est comme ceci qu'il procède. C'est pour cette raison là qu'il y a des clubs qui ont un véritable savoir-faire. Je pense que celui qui réussit très bien, on n'en parle pas souvent, là on passe au sélectionneur, c'est Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps, il a quand même l'art depuis qu'il est en poste, oui, d'opérer un renouvellement, c'est-à-dire quand il perd Griezmann, quand il perd Giroud ou quand il perd Varane par exemple, il a déjà anticipé par l'abondance de jeunes joueurs dans le noyau de l'équipe de France.
C'est important que tu parles de ça, parce que ça montre à quel point ça peut être déterminant pour durer.
C'est déterminant.
Un acteur qui comprend le renouvellement et comment faire pour passer le témoin. Bennett,
le sélectionneur.
Non, mais dans le tennis, c'est un sport individuel, ouais. Donc c'est forcément un peu différent. À quel point les anciens t'accueillent, à quel point tu accompagnes les jeunes joueurs français également, ou est-ce que vous êtes tous dans votre coin?
Je pense que en ce moment ils sont plus tous dans leur coin que moi, ce que j'ai connu quand je suis arrivé sur le circuit, et que quand tu fais pour la première fois des tournois ATP et que t'as les SQD, Grosjean, Clément qui sont là depuis quelques années, bah eux ils t'accueillent un peu, mais c'était une autre époque.
Mais tu veux dire quoi aujourd'hui, il y a trop de structures privées par exemple autour des joueurs, ils sont dans leur petite entreprise et ils sortent pas trop de là quoi.
Ouais. Moi, j'ai le souvenir, la première fois que je joue, par exemple, je suis avec Nico Mahut, on joue le double en 99 ou 2000 à Marseille, à l'Open 13, qui n'existe plus, donc à l'époque c'était un 250 d'aujourd'hui. On a perdu en qualif en simple, on a une wildcard en double. Bon, on est allé dîner sur le Vieux-Port avec Arnaud Di Pasquale, Fabrice Santoro et je sais plus lequel de joueurs. Tu vois, parce que on avait un entraîneur que Fabrice Santoro le connaissait, Arnaud Di Pasquale nous connaissait, venez les petits jeunes, on va dîner aujourd'hui.
Il y avait un côté, on vous intègre quand même dans le circuit.
Oui, mais c'est ça la transmission, parce que pour vivre ce moment, tu dis, faut que j'y retourne. Donc je vais faire les efforts pour y retourner, pour être à la même table que ces grands champions.
Et nous, il n'y a pas la transmission, il n'y a pas le truc via les équipes de France ou via le club, les sélections, parce que, et encore plus avec les formules d'aujourd'hui de la Coupe Davis ou de la Fed Cup, c'est tellement éphémère dans une saison que.
Et avant, vous vous retrouvez quand même de manière ponctuelle à plusieurs moments dans la saison.
Plus récurrent, bien sûr. Donc c'était pas du tout pareil. Et la vie sur le circuit, quand il y a des nouveaux qui arrivent, ils sont dans leur coin avec leur coach, et les autres qui sont là, ils sont avec leur coach, leur staff, leur femme, leur truc, ils dînent entre eux. Voilà, c'est y a beaucoup moins de
non mais
de
ça existe pas. Par exemple, même les grands joueurs, j'en sais rien moi. Quand Alcaraz et Sinner arrivent sur le circuit, on sait que ça va être des cracks. Les Djokovic et tout ça se disent pas, tiens, ces gamins-là, ils vont faire partie du jeu. Les accompagner un peu.
Non.
À quel point pas aller tourner général aujourd'hui.
De l'accompagner un peu, je sais pas, mais il y a des choses qui partagent. Je sais que par exemple Sinner était très jeune. L'année où à l'Open Australie avait lieu, mais il y avait encore les Covid, les espèces de bulles. Les joueurs devaient rester 15 jours au même endroit et s'entraîner avec le même joueur pendant 15 jours avant d'ouvrir cette bulle. Sinner a passé 15 jours avec Nadal. Donc pendant 15 jours, ils sont entraînés ensemble avec leur staff respectif. Mais est-ce que là, il y a eu une transmission? Oui, il y a forcément eu des échanges, etc. Mais c'est pas la même transmission au sens où là, quand on parle, pour revenir sur l'équipe de handball, des experts, où il y a des changements de génération avec une équipe et plusieurs générations qui ont tout gagné, c'est compliqué, c'est très dur. Et le rôle du sélectionneur, il est primordial.
C'est la vie de groupe. Les anciens sont là aussi pour t'apprendre à comment te comporter dans une vie de groupe.
Exactement.
Parce que tu ne peux pas tout faire, même si tu es jeune et que tu es talentueux, tu as une certaine façon de te comporter, des codes qui sont assez simples, mais tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi.
Et je pense que l'équipe de France de foot, à un moment donné, a eu ces problèmes-là. 98-2000, on gagne tout, on est sur le toit du monde. 2002, il y a un peu Zizou qui est blessé, la Coupe du Monde, on ne sait pas. Et finalement, il y a les anciens. Et derrière, 2004.
Jérôme Rotten, on parle souvent sur le problème de génération.
De génération.
C'est pour ça que c'est important ce dont on parle. C'est pas du tout anecdotique. Après,
comme disait Pascal, ce qui est important, c'est l'intégration des jeunes au fur et à mesure. Parce que les clubs qui arrivent, ils parlaient de foot, je parlerai plus facilement du Stade Toulousain. Plus tu les intègres dans la vie de groupe, plus tu les intègres à participer à des feuilles de match, plus ce passage de témoin, il est hyper facile.
Toi, tu parles de ton expérience, Cédric. C'est intéressant. Tu disais, moi, je regardais pas forcément les petits jeunes comme des menaces ou des trucs comme ça. J'étais dans un truc assez positif. Mais justement, dans un environnement d'excellence comme le Stade Toulousain ou le Real, on en parlait hier pour le foot. Enfin, en fait, vous savez très bien que n'importe quel jeune qui sort du centre de formation, il est là pour vous manger les chevilles.
Oui, mais je suis d'accord.
Toi, tu réagis comme ça. Mais est-ce que tes coéquipiers réagissent?
Parce que c'est
votre ADN Toulouse. Vous êtes comme ça?
Non. Il y a une homme. Parce qu'en fait, Toulouse, c'est la ville rose, mais tout est pas rose.
Mais
vos entraînements, des fois, tu vises, tu expliques, tu appuies des plaquages sur le petit jeune en essayant de faire comprendre qu'il est un peu trop tôt.
Que c'est toi le taulier, quoi.
Ouais, mais ça te fait progresser, tu vois, si tu prends
dans un
sens.
Dans une logique d'excellence.
Voilà, en fait. Je l'ai vécu et je l'ai subi. Les coups de. En dessous de la ceinture, c'est détestable. Et ça pète des vestiaires parce que ces gens-là ne savent pas partir. Et puis surtout, il y a beaucoup de coachs qui ne savent pas leur dire arrête parce que tu pollues la vestiaire.
C'est ce que j'allais dire, Cédric. Et l'importance de l'œil, la vigilance du coach, c'est extrêmement important.
C'est le sélectionneur qui vous le savez.
Comment passer témoin, c'est le sujet du vestiaire, Pascal. Le rôle de l'entraîneur, justement. Est-ce que toi, tu dis, je ne sais pas, tu vois des joueurs expérimentés dans le vestiaire, tu dis prends ces joueurs sous ton aile, tu es un peu attentif justement à l'évolution des relations.
De bien définir les bons cadres quand tu es manager, il faut définir les bons cadres, donner des responsabilités aux joueurs qui comment dire collent à ces responsabilités là,
qui performent tous.
Pas un ego surdimensionné. Ouais. Je prends un exemple. Souvent, le mercredi, j'avais l'habitude, quand j'étais coach, donc, d'opérer une opposition entre l'équipe type et puis les plus jeunes. Bah, quelquefois, t'as des garçons dans l'équipe type qui se comportent comme des vrais salopards, mettent des pains aux jeunes, comme c'est pas permis. Et là, si t'es coach, tu fermes les yeux. Franchement, tu perds l'adhésion, t'as rien à foutre dans un projet comme ça.
Qu'est-ce que tu fais alors?
Tu reprends de voler.
Tu dis quoi?
Parce que ça m'est arrivé.
Tu
convoquais le joueur, tu dis écoute, t'as la responsabilité d'être une courroie de transmission, t'as démarré, t'as été jeune, on t'a facilité l'éclosion, donc fais attention à avoir la même attitude avec les jeunes qui arrivent. Tu vois, c'est trouver la juste mesure de manière que, à ce que cette abondance de jeunes qui est indispensable pour un club moyen de Ligue 1 et pour tous les clubs de Ligue 1, quels qu'ils soient, il faut former des jeunes aujourd'hui. Il faut pas que ça soit coupé tout ceci.
Est-ce que justement quand tu es en bout de carrière, en fin de carrière, est-ce que parfois vous êtes senti ringard, dépassé par les jeunes, les jeunes qui
dépassé déjà ce que tu apportes sur le terrain, du moins quand t'es dépassé en vitesse, en charge de travail, tu le sais. Si t'es honnête avec toi-même, tu sais que tu es en train de te faire manger. Et c'est logique. Maintenant, c'est comment tu vas le vivre. Est-ce que tu es un vieux salopard et tu te dis, je vais leur mettre des bâtons dans les roues, je vais les dire, viens, on va en soirée et va te cramer, nani, nana.
Mais ça existe, hein, les joueurs.
Mais bien sûr que ça existe. Ou tu te dis, j'ai envie de transmettre et t'as une vraie discussion, ce que je racontais à Bayonne, où quand j'arrive à Bayonne, je sors de la Coupe du Monde 2011, je fais ma première année à l'escalier, mais elle est plutôt correcte plus, et la deuxième, je sens que ça y est, c'est fini. Et je vais voir les coachs en leur disant, les nouveaux coachs qui arrivent, en leur disant, voilà, mais faites de moi votre poil à gratter, du moins, par rapport aux jeunes. Je sais que Speeding, Marvin O'Connor vont être titulaires à l'époque à Bayonne. Mais une fois sur trois, une fois sur cinq, mettez-moi, challengez-moi, comme ça, moi, j'ai le temps de me préparer. Et je vais les pousser et je vais les remettre dans le tranchement. Et ça, je pense
que c'est ce dont on parlait au PSG ces derniers jours aussi, hein, de parfois mettre justement des petits jeunes pour.
Oui, et comme Pascal, disait, c'est que si t'as un discours très clair avec les uns et les autres et que tu définis bien les rôles des uns et des autres, eh ben ça se passe beaucoup plus facilement.
Ça passe
et les messages sont top.
Ouais. Non, mais c'est le rôle évidemment de tout le monde en fait, hein, des joueurs, des cadres, est hyper important dans cette séquence là, le vestiaire. Donc comment passer le témoin, la passation entre une génération ou une autre, vous retrouvez en podcast évidemment. C'est fascinant. Hein. Et voilà, il y a pas que des personnes bienveillantes.
Non, mais après, après
Christophe, regarde, le stagiaire soir à 4h du matin, il m'a dit viens, on sort, comme ça tu seras prêt pour l'émission demain. Je l'ai pas suivi, je savais qu'il voulait m'envoyer.
Moi, je sens, tu vois, un Georges Quirino que j'ai pris sous mon aile quand il était jeune journaliste, là, je sens qu'il est en train de me pousser dehors, petit à petit.
Mais maintenant, tu vas savoir si est-ce que tu continues à l'accompagner. Est-ce que tu continues à l'accompagner, parce que, à notre sens, il en a encore un peu besoin.
Bien sûr, on a toujours besoin. Je rigole jaune.
T'es viré, Mans.
Attention. Les grandes gueules du sport, dans un instant. Alors regardez, ici, c'est ça qui est super. C'est qu'on a aussi plusieurs générations différentes et on essaie d'apprendre les uns les autres. Je me souviens, il y a quelques semaines, Marc Madiot s'est aussi dit, par exemple, oh, c'est pas mal, finalement, les trucs d'e-sport. Le grand... J'ai fait explorer. Alors, on apprend les uns les autres. Hein. C'est aussi ça qui est intéressant dans cette émission. Allez, dans un instant, les amis, on va revenir pour parler eh bien, de la CAN, la finale de la CAN. Maroc-Sénégal, c'est à vivre à 20h en prise d'antenne des 19h30 depuis Rabat. Est-ce qu'une finale à domicile est imperdable? On revient dans un instant sur RMC avec vous.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dans un instant, les jeux du sport. Quel GG connaît le mieux le sport? Alors là, je suis pris par surprise, hein. Véritablement.
Quel jeu d'acteur, c'est Georges. Georges Quirino, voilà. Road to LA.
Pour les Oscars, c'est ça? Pourquoi pas? Moi, si vous m'invitez, je vais. C'est pas la meilleure.
En tous les cas, t'es dispo.
Il a fait l'acteur studio, ça se sent tout de suite.
Je sais pas si je vais y aller, c'est pas la meilleure séquence dans la relation française-américaine. Mais en tout cas, c'est le moment pour vivre l'expérience RMC, gagner vos places pour OM Liverpool mercredi à Marseille. Vous avez 5 minutes pour envoyer OM au 7-32-16. OM au 7-32-16. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose d'abord, c'est le couronnement du roi d'Afrique. Vous savez que c'est pour ce soir?
RMC, les GG sur le buzzer.
Bruno Onyemaechi, pied gauche, c'est marqué, c'est arrêté! Arrêté par le point ferme de Yacine Boudou qui n'est pas tombé!
Ça se voit des milliers!
Et voilà le Maroc qui prend l'avantage, et là, attention! Attention! Car sur le cinquième tireur, il y a la qualification peut-être pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
C'est Youssef En-Nesyri. Il a été un des héros marocains à la Coupe du Monde 2022 en marquant face au Portugal. En-Nesyri,
c'est marqué.
C'est au fond. Le Maroc retrouve la finale de la CAN après 22 ans. Mais c'est vers Bounou que tout le staff saute. Le public est en folie. Le Maroc est en finale de sa Coupe d'Afrique des Nations.
Maroc-Sénégal, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce soir à 20h sur RMC. On sera en direct de Rabat dès 19h30 pour vous faire vivre cette finale exceptionnelle. Le Maroc attend un succès continental depuis 50 ans. Les coéquipiers d'Achraf Hakimi ont donc une occasion en or de devenir des héros au royaume. Et attention aux Sénégalais de Sadio Mané, sacré lors de l'avant-dernière édition. Les GG, je vous pose la question sur le buzzer. Oui ou non? Le Maroc en finale de sa CAN, une finale à domicile. Est-ce que c'est imperdable, Christophe?
Je suis bien embêté avec la question parce qu'il y a des exemples et des contre-exemples. Et je vais vous parler tout à l'heure d'un exemple qui a été frappant. C'est le Brésil en 1950 qui avait la défaite en finale de Coupe du Monde.
Il était déjà, il avait 40 ans.
J'y étais déjà.
Il avait 40 ans. Et donc là, la réponse à ta question. On n'a rien compris là.
Oui, mais le teasing est incroyable. Et moi, j'apprends des meilleurs justement dans la transmission. Et là, il m'a donné envie de l'écouter dans quelques instants. C'est ce qu'on appelle le talent. Cédric Emmons, une finale imperdable à domicile.
Moi, je pense qu'une finale est imperdable. Quand on est à domicile, mais c'est la plus facile à perdre.
Oui ou non, Pascal Benetto, j'allais dire, pourquoi pas.
Oh là, ça lui va bien.
Ça ferait une sacrée fusion, ça. Hein. Je peux vous dire que Bennett, je suis un joueur de double, ça donnerait ça. Bennett. Oui ou non, finale imperdable à domicile?
Non, c'est perdable.
C'est Pascal.
Non.
Ah ben merci, Bascam.
On
vous attend au 32-16, WhatsApp 06-12-424-424. Vous l'avez entendu au commentaire. Aurélien Tiercin va être ce soir également commentaire pour RMC à Rabat. Salut Aurélien.
Salut les GG, salut les amis.
Oh là là, tu vas vivre un truc, je pense toi, ce soir, absolument iconique. C'est tout un royaume hein, qui s'arrête de respirer ce soir.
Ouais, exactement. On l'avait déjà vécu il y a 2 ans finalement en Côte d'Ivoire où il y avait une ambiance extraordinaire autour des éléphants. Là, c'est la même chose autour des lions de l'Atlas. L'ambiance est un peu fraîche malheureusement parce qu'il fait 12-13 degrés, il pleut des trompes d'eau. Voilà, c'est la première fois en 20 ans, mais il fallait que ça tombe sur nous. Exactement. Bon, c'est pour ça que les fan zones sont un petit peu calmes. Rabat, c'est aussi la belle endormie, mais c'est vrai qu'on arrive au stade, il y avait 100 décibels lors de la demi-finale et là où Walid Regragui attendait 200 décibels. Donc c'est vrai que ça pousse très très fort dans le stade Moulay à Abdellah. Et on a dans le souk de Salé qui est juste à côté de Rabat croisé quelques supporters qui nous ont donné leur pronostic pour cette grande finale ce soir.
Dima Maghreb, c'est le Maroc, la coupe, elle est arrivée au Maroc. Elle restera au Maroc et pour des décennies.
Je veux pouvoir dire plus tard, j'ai vécu la coupe à la maison.
Je suis confiant les gars, je suis confiant, ça va le faire. 3-0 pour le Maroc, Inch'Allah. Ya.
Je nous vois quand même dominer le match et il va falloir concrétiser, c'est ça. On va gagner, Inch'Allah, on va gagner.
Et finalement, il y a quelque chose qui s'est passé contre le Cameroun en quart de finale et le Nigeria en demi-finale. C'est que le scepticisme du début s'est petit à petit transformé en un vrai élan populaire parce que les hommes de Regragui étaient quand même assez critiqués avant cette Coupe d'Afrique des Nations. Et un journaliste marocain, Jalal Bouzrara, nous raconte justement cette épopée entre scepticisme et aujourd'hui fierté de voir cette équipe marocaine.
Les gens sont très 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 confiants. Bien sûr, ils vont être tristes si jamais ça se passe pas comme ils veulent, ils le souhaitent. Mais je pense qu'ils sont aussi fiers et contents de comment cette équipe du Maroc a pu grandir tout au long de ce tournoi.
Bon, malgré tout, il faut gagner. Ça fait 50 ans que le Maroc n'a pas gagné une Coupe d'Afrique des Nations. La dernière fois et la seule fois, c'était en 1976, 22 ans après la dernière finale en 2004 contre la Tunisie. Alors le sélectionneur Walid Regragui sait que la gestion, la clé, ce sera la gestion des émotions. Lui sort un petit parapluie, il veut pas cette chape de plomb du maintenant ou jamais, Walid Regragui.
C'est l'objectif de tout un pays, bien sûr, de tout un peuple. Après, ça va peut-être vous énerver, ça reste que du football. Nous, on va jouer à une finale de Coupe d'Afrique. On espère que ce sera pas la dernière dans l'histoire du Maroc. Si on pense que c'est juste une opportunité qui nous vient et qu'il faut pas la louper parce que sinon on va plus jamais la gagner, c'est pas mon modèle de pensée. L'objectif du Maroc, c'est pas juste de jouer cette finale et de la gagner et d'être content pendant 50 ans et de dire on a gagné une CAN. C'est de revenir dans 2 ans, de revenir dans 4 ans. Et si on la gagne pas demain, c'est de la gagner la prochaine, mais d'être là.
Il a raison, Walid Regragui, parce qu'en face, c'est la véritable meilleure équipe d'Afrique, le Sénégal. 3 fois finaliste de la CAN lors des 4 dernières éditions. C'est une équipe qui allait gagner en Angleterre en 2025, 3-1. Une équipe qui a battu le Brésil il y a 2 ans et qui a des superstars comme Sadio Mané, dont ce sera d'ailleurs la grande dernière en Coupe d'Afrique des Nations.
Merci Aurélien, tu restes avec nous, évidemment. Finale de la CAN ce soir, Maroc-Sénégal. Est-ce qu'une finale est imperdable à domicile? On va voir dans quelques instants, Brahim, supporter marocain au téléphone. Christophe, tu disais il y a quelques instants...
Alors, il y a des exemples et des contre-exemples. Évidemment, France 98, on avait l'impression que cette équipe de France ne pouvait pas perdre sa finale. Elle était sur un nuage. La folie qui entourait le pays a fait que les Français ont gagné cette année-là. En revanche, lorsqu'elle a perdu l'Euro en 2016, ça n'a pas provoqué
de cataclysme
ouais. Parce qu'on avait déjà gagné avant, ouais. Parce Exactement. Qu'on avait une équipe en devenir qui allait pouvoir regagner derrière.
Franchement,
parce que t'as vécu, non, mais tu sais que 98, ils peuvent continuer à gagner, donc tu te dis, bon, c'est pas grave.
Ouais, mais là, 2016,
ça m'a pas traumatisé du tout, mais peut-être que
il y a beaucoup de jeunes, quand on avait parlé des traumatismes, qui nous disaient que France-Portugal, pour eux, c'était un truc très puissant, quand même, plus que France-Argentine.
Plus que les finales, il y a des matchs qui ont été traumatisants dans l'histoire. Je veux dire, le France-Bulgarie ou le France-Allemagne 82.
C'était pas à domicile, là. France-Allemagne. France-Bulgarie, oui, mais là, pour eux, sur notre truc, sur la domicile.
Et le France-Bulgarie.
Mais le Maroc, s'il perd ce soir,
France-Afrique du Sud, par exemple.
Oui, mais c'est pas une finale, c'est un quart.
Ouais, c'est parce que moi,
au rugby, mais c'est
ou
chez
alors,
nous.
Si
en rugby,
on va
pareil, pendant la Coupe du Monde 2007 en France, tu vois, c'est pas une finale, c'est pas pareil.
Ouais, c'est un demi.
Mais quand le Brésil en 2022 organise la Coupe du Monde et en prend 6 contre l'Allemagne, je crois que c'est le 8e, c'est trop mieux.
Oui, mais c'est en demi.
Alors, le Brésil, justement, qui a vécu sans doute le plus grand drame de son histoire. C'est un drame qui s'est, qui n'a pas été uniquement un drame sportif, mais qui a vraiment touché toute la société. 1950, le Brésil reçoit la Coupe du Monde pour la première fois, construit le plus grand stade du monde pour l'occasion, le Maracana. Ils sont quasiment champions du monde puisque la compétition se déroule en poule. Ils leur font un match nul, ils affrontent l'Uruguay. Ouais, mais ils perdent. Et là, ça a été la cata. Tout a été remis en question. Il y a eu des suicides, il y a eu une dépression nerveuse.
Il y a même un nom, ça s'appelle le Maracanazo.
Maracanazo, le choc du Maracana.
Ils ont pu jouer en blanc derrière.
Exactement. Le maillot bleu et blanc ont été considérés comme des couleurs maudites et ils sont passés au jaune.
Mais ça prouve que ça laisse plus de traces qu'ailleurs, peut-être, quand on a un tel événement.
Bien sûr, mais je pense que c'est pas pareil aussi.
Si c'était pas au Brésil, il n'y aurait pas eu ce traumatisme. C'est important ce que rappelle Chris. Et en sport individuel, c'est pas pareil.
Non, toi, là ce soir, parce qu'il y a le Maroc qui est en finale. Si jamais ils perdent, je pense que ça va être surtout dans les pays où il y a une ferveur qui est un peu plus exacerbée que dans d'autres, je pense que ça va être compliqué sur le moment. Mais dans 5 mois ou 6 mois, le Maroc, ils seront très dangereux et très compétitifs à la Coupe du Monde.
Mais quand on a préparé l'émission,
parce que c'est une équipe cohérente aussi.
En plus, voilà.
Mais je pense que ça dépend le scénario du match de ce soir s'il venait à perdre.
Je prenais un exemple de Fignon au Tour de France.
Ça plombe sa fin de carrière.
Il s'est jamais remis.
Ouais, non.
Et
Henri Lecomte aussi.
Henri Lecomte. La différence entre Lecomte et Noah. Noah, il gagne à Roland en 83. Lecomte, il perd en 88.
En se faisant siffler par
plus. À la fin, il s'est sifflé parce que justement, il réagit moins bien, etc. Vilander, Lecomte, il dit à Vilander, tu as changé ma vie. Tu aurais battu Noah et je t'aurais battu. C'était pas pareil du tout. Et effectivement, une finale à domicile dans un sport individuel, dans un événement majeur, un grand chelem au tennis, le Tour de France à la dernière étape pour gagner ou des choses comme ça, quand ça t'arrive, le traumatisme est très dur.
Tu as la pression populaire, tu as aussi la pression même politique. Cédric, tu l'as connu
en 2007.
Tu vois, la Coupe du Monde de rugby, les Marocains, ils vivent aussi
je pense que c'est ça. Puis je vais m'arrêter là, mais en le disant, mais elle est surpolitisée, cette Cannes. Mais en 2007, c'est le défilé des présidents, du président, c'est le premier ministre, c'est les ministres.
La lettre de Guy Môquet.
Alors là, je vais être transparent avec vous. Au moment où il a lu, j'en ai tellement rien à que je sais même pas ce qu'ils sont en train de raconter. Je sais même pas pourquoi on a pu penser à lire un truc. Tu vois, donc.
Et rappelle-toi, 4 ans plus tard, la Coupe du Monde qui a lieu en Nouvelle-Zélande.
Oui.
Vous affrontez la Nouvelle-Zélande en finale. Oui. Ils vous ont mis une race, c'est pas possible, lors du premier match.
Tout à fait.
Les Néo-Zélandais sont tellement sur deux, mais j'ai senti l'angoisse de tout un pays dans les dernières minutes du match où les Français sont devant, reviennent.
On a la pénalité que François Duc ne passe pas.
Ils étaient verts.
Que vivent les Marocains aujourd'hui? Moi, c'est ce que j'ai envie de savoir. Brahim est au 32-16 avec nous, supporter marocain. Salut Brahim.
Salut tout le monde, ça va, vous allez bien?
Salut Brahim. Toi, surtout,
est-ce que tu trembles?
C'est très bien, je n'ai pas dormi de toute la soirée.
C'est vrai, raconte-nous. La finale à domicile, c'est imperdable?
C'est imperdable, pourquoi? Parce qu'il y a un programme qui a été fait depuis 2013 par Sa Majesté le Roi. Il y a aussi par le président de la fédération. Il y a un vrai travail de fond qui a été fait sur la formation. Il y a une académie, plusieurs académies ont ouvert au Maroc. On a vu des talents naître, notamment dans tous les postes, notamment le gardien est formé au Maroc. On a Aguerd qui est formé au Maroc. On a Onaï qui est formé au Maroc.
Mais l'occasion est trop belle, en fait, c'est ça. Mais
ce que tu dis,
c'est
que
la politique, c'est formé au Maroc.
Je mets le point sur ces formations-là parce que souvent, on dit les binationaux, mais aussi une vraie formation qui a été faite au Maroc, mais qu'on n'en parle pas assez. On a des vrais clubs qui sont ancrés en Afrique, notamment le Raja et le Wydad et le FUS, les FAR, qui sont des grands clubs, le Barkhane actuellement.
Non, mais du coup, Brahim, c'est l'occasion est trop belle pour mettre en valeur tout ça, justement, dans cette séquence-là, avec tout ce que vous avez.
Brahim, tu vas le voir comment si vous perdez.
C'est un vrai travail de fond qui a été fait depuis des années. Et c'est le moment de montrer au monde entier qu'on a des vrais centres de formation et que c'est pas que ce que disent certains, l'arbitrage ou autre, un vrai travail. Un vrai football.
On le dit pas ici et on va continuer à en parler dans les paris RMC dans quelques instants, Brahim. Mais je veux juste savoir, juste en 5 secondes, comment tu vas vivre le match ce soir, 20h.
Excité avec la famille. que j'ai plus de mots parce que je n'ai pas dormi hier.
Allez, on compte les heures avec toi. On compte les heures avec toi. Merci, Brahim. C'était hyper important de savoir aussi ce que vous vivez, les supporters marocains et sénégalais aussi. Hein. On sera dans quelques instants dans les paris RMC. On va beaucoup en parler dès 19h30, la prise d'antenne sur RMC. On va en parler toute la journée. On est à Rabat pour cette grande finale entre le Maroc et le Sénégal. Les amis, ça a été un peu court, mais c'était hyper intéressant. Je pense qu'on a pu comprendre les différences qu'il y a pu avoir dans l'approche d'une telle finale à domicile. Mais là, on va voir surtout si vous allez être à la hauteur. Les jeux du sport arrivent sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
La dernière droite des grandes gueules du sport, tout de suite on joue.
RMC, les jeux du sport.
Je vous rappelle le principe, c'est du 2 contre 2. Vous défendez un auditeur. Répartition des équipes. Julien Beneteau avec Pascal Dubras.
Allez, c'est pas l'équipe, ça.
Christophe Cessieux avec Cédric Clément.
Ça te convaincre, c'est une grosse équipe, ça.
Je vous rappelle que vous pouvez activer une question impossible, activable par un seul joueur par émission. Il est le seul à jouer. Une bonne réponse, c'est 2 points. Une mauvaise, c'est 1 point au moins. Denis l'a activé hier très rapidement.
Il l'a eu ou pas?
Non, il a échoué. Lamentablement. Mais c'est possible.
Il a perdu 1 point.
Je rappelle que Sarah Pitkowski l'a passé en début d'année. Hein, question impossible. Donc, c'est-à-dire qu'elle est quand même possible. J'accueille les auditeurs. Amédée, Aurélio, salut les amis.
Salut, ouais, salut.
Amédée, c'est toi qui as appelé en premier, je te laisse choisir ton équipe. Avec l'équipe Cessieux, Aymans ou Dupras Beneteau?
Mais comme j'ai des origines savoyardes, je vais me mettre naturellement dans l'équipe de Pascal.
Ah bah voilà.
Quel bon choix, je l'espère pour toi en tout cas.
Pascal Dupré, il est ému. Tu vois,
bien sûr.
Je pense là, tout de suite, la fibre savoyarde est touchée. Donc, Aurélio avec Cédric et Christophe. Allez, c'est parti, les amis. Je rappelle qu'il y a un ballon de basket authentifié et signé par Magic Johnson grâce à notre partenaire AuthenticSignature.com à gagner. Les amis, question à une seule réponse. Combien de secondes séparer le premier du deuxième?
Deux.
Julien Ménette.
Deux quoi?
Deux secondes. Entre Oda Carmoto.
Deux quoi? Julien, fais gaffe au stylo.
Ah oui. Non, pas encore, attends.
Tu sais quoi, si on n'a même pas le temps d'entendre la question.
Ça y est.
Bon, bah, je vais me faire une petite sieste, je suis fatigué.
Reste là. En fait, c'est que lui-même fait cette tactique parfois de donner une réponse avant la fin de la question, mais alors quand c'est les autres.
Ah, c'est terrible. Je prends toi.
Allez, tu défends l'auditeur, je rappelle. Question à une seule réponse. Quelle est la série de victoires de Lens en Ligue 1?
10 victoires.
C'était une réponse, donc il a perdu.
La réponse n'a pas été donnée.
10
en Ligue 1, j'ai dit.
Ah, 9. J'ai dit 8, moi.
Mais attendez, c'est une seule réponse. Pascal, il reste plus que toi, Pascal.
Entre les deux.
En Ligue 1.
Ah. Ouais.
7.
La réponse est 8.
Mais oui. J'ai dit 8, la première réponse, j'ai dit 8.
T'as dit 10.
Oui, j'ai dit 8.
T'as dit 10.
Non,
t'as dit 10.
Max,
la barre,
Max.
La barre,
Max.
Max, tu m'as demandé des choses en antenne, si tu veux les avoir, tu es obligé de répondre.
On active
la barre. On active la barre. Pour l'instant, 1-0, ça bouge pas.
On a 2-0, Pascal.
Allez, question auditeur pour Amédée et Aurélio. Vous donnez la réponse et votre prénom derrière. Qui a terminé 3ème de la CAN?
Aurélio.
3ème de la CAN.
Aurélio.
5-4-3. 2.
C'est pas l'Italie.
Non, c'est pas
Nigeria.
Nigeria, qui a dit Nigeria?
Aurélio.
Yes. Bien, Aurélio.
Partout.
Prends ton temps pour répondre.
C'est pas grave, Amédée. C'est pas grave.
Là, c'est 18, calme, calme. Le bunker est toujours en train d'écouter si la réponse de Julien Beneteau était valide ou pas. Question à une seule réponse, les GG. Nasser Atia a remporté le Dakar hier. Il a combien de victoires?
6.
Julien Beneteau.
Ouais, t'es
même plus, il y a même plus une feu. Musique pour donner là.
T'es en feu.
Voilà, bon. Merci Alban.
Ouais, c'est bon.
Question à une seule réponse. Question d'histoire. Quel est le joueur le plus titré de l'histoire de la Champions Cup en rugby? Ah oui, vous êtes deux rugbyman ensemble. Hein.
Une seule réponse.
Michalak, Cédric Aymans. Voilà.
Bravo, ouais. Ah, bon, ouais, tu me diras, t'as pas de mérite, c'est ton sport.
Cédric. Bien, Pascal.
Le trash talking de Pascal, je l'entends bien arriver.
Pascal, je sais pas, t'as vu sur WhatsApp, j'avais besoin de confiance en ce moment, tu viens de m'en donner.
Deux pour l'instant. Deux pour l'instant, le bunker est en grande difficulté. Voilà. Question auditeur, Amédée et Aurélio. L'Open d'Australie a débuté aujourd'hui. Mais dans quelle ville?
Melbourne.
Qui a donné la réponse?
Aurélio.
Aurélio. 3-2.
Aurélio, il a même donné le vrai score. Aurélio,
il a même rire que David Douillet. Ça m'a un peu. Si, David est là. Allez, question à élimination pour deux points. Chacun répond à tour de rôle. Pour
deux points, t'as dit.
Pour deux points, c'est toujours ça. L'équipe, Cédric Emmons, Christophe Cessieux. Et devant, pour l'instant, Christophe est en train de revenir dans le jeu. Il s'est rapproché de la table. Citez-moi les 20, le top 20 des handballeurs français les plus titrés avec l'équipe de France. Les handballeurs masculins. JO, mondiaux et Euro. Les 20 plus titrés. Christophe.
Karabatic.
Karabatic.
Lequel?
Évidemment.
Nicolas.
Nicolas, c'est bon. Bennett.
Au meilleur.
Thierry Omeyer, c'est bon.
Je vais écorcher son nom. Nars.
Ouais, ça
Narcisse, c'est ça.
Ouais, ouais. Narcisse, c'est bon. Ouais. Ça passe. Pascal.
Abalo.
Luc Abalo, ça passe. Christophe Cessieux avec un stylo.
Richardson.
Jackson Richardson. C'est pas bon.
D'accord. La légende du
ouais, mais il a pas gagné.
Mais qu'est-ce qu'on peut y faire si factuellement il a pas gagné plus de titres.
Il a pas gagné. c'est incroyable.
De râler sur ça.
C'est fou.
Bennett.
Fernandez. Jérôme.
Oh, Michael. Pas Louis. Non, mais Pascal, vous êtes dans la même équipe, hein, tu sais.
Non mais c'est toi, Jules. Bravo, ouais. Jules.
Cédric.
Parce que j'avais celui-là en tête.
Comment, pardon?
Valentin Porte, non?
Valentin Porte, c'est bon. Pascal.
Ah ouais, c'est bon.
Ouais.
Gilles, un des frères Gilles, je veux dire Gilles.
Gilles. Lequel?
J'avais deux chances.
Bon, Guillaume ou Bertrand?
Bertrand.
Ça passe. Bennett.
Oui.
Guigou.
Guigou. Bien sûr que ça passe, deuxième. Cédric.
Melvin Richardson.
Melvin Richardson, ça passe pas, éliminé. En plus, t'es sur ton téléphone. Et... Ah, donc ça marche pas.
Ah, j'ai oublié quelqu'un. J'ai oublié
Pascal. Quelqu'un,
Olivier Giroud.
Ah voilà, Giroud. C'est à lui.
Olivier Giroud.
Ça passe. Oui.
Mais moi, tu as expliqué pourquoi le mien il passe pas. Hein.
Maxime Bollin me dit c'est pas bon.
Giroud,
c'est pas ça. Dinard.
Non, je me suis. Attends, Didier, je me suis pris. J'ai dit Giroud, après Giroud.
Didier Dinard. C'est bon, c'est bon le point pour l'équipe Beneteau.
On a gagné. Bien joué. Bien joué. Bien joué.
Question impossible de Christophe Cessieux. Ah
oui, oui, oui.
Voilà, c'est ça qu'on veut.
Bravo Christophe. Du panache. Bravo Christophe. Du panache. Oui, allez, top. Allez Christophe.
Avec 4 points sur le bunker.
Tout se joue là.
C'est 2 points. Mais non,
se joue là.
Bah oui, il y avait
3-2.
Christophe,
c'est la question impossible est une question vélo.
Et c'est le bunker, ça fait 5-5.
S'il vous plaît. Qui a terminé meilleur grimpeur du Tour de France en 1978?
Ouais. Meilleur grimpeur du Tour de France en 78.
Tu peux le trouver.
Lucien Van Impe.
Tu vas le trouver.
Lucien Van Impe.
Eh non.
C'est Mariano Martinez. Terminé.
Même en enlevant des réponses, on a gagné.
Victoire pour l'équipe Benetton Duprat. Et donc Amédée, c'est toi qui rencontres le dédicacé par Magic Johnson, notre partenaire
en
Sélection.com. Merci infiniment. J'ai pas du tout été bon, mais l'équipe était.
Il avait un ballon,
ça pour mon grand garçon qui est fan de basket. Merci beaucoup pour lui.
Dans une équipe, il faut des mecs transparents, voilà.
Et j'aimerais que tous ensemble on applaudisse Christophe Cessieux.
Ouais.
Les jeux du sport sur RMC avec authentiquesignatures.com, le site de référence des maillots signés et certifiés, véritable pièce de collection. Rendez-vous sur authentiquesignatures.com.
Ça passe par là, Christophe. Ça passe par là, par ce genre de choses.
C'est là, on veut
par le panache, les questions impossibles. C'est comme ça.
Il a coupé son
micro.
T'es pas
convaincu ?
Il est d'un flex, c'est un truc.
Merci Christophe, merci Pascal.
Je me fais engager. Merci Georges.
Merci à tous, c'est vrai. Julien Benetto, merci. Les paris AMC arrivent dans un instant.